Alors, dans cette émission de Ménage-toi, Alda, on a commencé à faire une série de dossiers. Je crois que c'est la première fois qu'on s'est lancé dans des grandes enquêtes. Je me souviens d'une enquête que tu as faite sur les maladies pour les enfants provoquées par la pollution, par exemple. D'autres, je ne sais pas, Marianne s'était lancée sur l'anorexie. Troisième sur, je me souviens avoir fait un sujet juste avant Noël sur quel type de jouets on vend à nos enfants avec un micro glissé dans mon gant dans les magasins pour aller recueillir les grandes explications pédagogiques des vendeuses sur la valeur de tel ou tel jouet. Bref, il nous est apparu important quand même de faire certains dossiers de fond sur certains sujets concernant les femmes. Et puis, à un moment donné, il y a eu une bizarre remise en cause. On nous a proposé non plus de plus émettre sur Radiozone, mais d'aller sur Radiocité. Et là, ça a été un sacré bouleversement dans notre histoire. Tu te souviens, Arina Soufi, Alda Ikey, pourquoi nous avons refusé finalement, tu te rappelles?
Mais on a refusé parce que nous, on était prêtes à un compromis. C'est-à-dire, on disait, bon, d'accord, nos émissions, on peut aussi les retransmettre sur Radiocité.
Même si on cherchait des prêtes.
Ça fait que amplifier notre public, mais notre lieu d'émission, notre radio de base, notre camp de base, ça reste Radio Zone. On voyait pas pourquoi il fallait changer. Et puis et là, ça n'a pas marché. Voilà. Il y a eu des gros problèmes là autour. Et puis voilà. Et il y a eu une
et c'est
une
là grosse, au mois de janvier suivant est né Remue-Ménage et non plus Ménage-toi.
Voilà.
Voilà. Voilà. Ménage-toi est resté le journal qu'il était.
Voilà, moi, j'ai continué avec mon journal et puis voilà. Parce que vraiment, Radio-Cité,
c'était quand même une radio catholique.
Pas, voilà, c'était une radio catholique. Et puis c'était vraiment trahir une radio libre, quoi. C'était partir d'une radio qui nous tenait à cœur, qui symbolisait beaucoup de choses par rapport à qui on était.
On essayait de leur faire dire que jamais ils nous laisseraient parler de l'avortement, jamais nous laisseraient parler des lesbiennes. Et puis non, ils disaient tout le temps, mais si, mais si, mais si. Mais effectivement, nous, on sentait bien qu'on pouvait pas trahir Radio Zone. Mais cela dit, bon, alors, c'était Remue-Ménage, mais Ménage-toi est resté, et c'est resté un projet fort qui existe toujours aujourd'hui et qui a donné naissance à un syndicat aussi. Ça peut être, pas tout a arrêté. Les choses ont continué séparément, voilà. Mais avec des projets de femmes aussi.
Oui, Ménage-toi a continué. C'est devenu un syndicat des femmes actives au foyer qui s'appelle SPAF. Qui a continué, qui a eu un certain succès, qui continue à élaborer, faire réfléchir, parfois provoquer sur la question de la reconnaissance du travail familial et domestique.
C'est posé aussi à l'époque un problème qui se pose peut-être toujours, c'est un peu le rapport entre travail et bénévolat. Effectivement, la radio Pleine Lune et Radio Zone étaient animées par des animateurs bénévoles. Et puis, dans Ménage-toi, aussi d'ailleurs, parce qu'il y avait cette problématique de la reconnaissance du travail et que la reconnaissance passe aussi par un salaire, il y avait aussi l'exigence de dire, mais ce travail, ces émissions doivent être salariées, nous devons être payés. Et se pose un peu le problème, parce que c'est une évolution qu'on voit dans beaucoup de groupes de femmes où peu à peu, elles se professionnalise, elle se trouve un salaire, ce qui est normal, puisque finalement elles font un travail extraordinaire. Mais est-ce que ça ne s'accompagne pas d'une perte de la militance, cette institutionnalisation et cette salarisation? Est-ce que peu à peu ces groupes de femmes ne deviennent pas des institutions qui peu à peu perdent un peu leur féminisme?
Ben, je sais pas, en tout cas moi. Dans cette émission Ménage-toi, on avait trouvé une institution qui s'appelle Collège du Travail, qui nous payait, qui nous rémunérait, nous indemnisait un petit peu pour notre engagement dans cette émission. Et effectivement, moi, j'avais les deux casquettes. Des fois, je faisais des émissions pour Ménage-toi et puis j'étais payée. Et puis, à d'autres moments, j'étais à Radio Pleine Lune et puis j'étais pas payée. Et l'élan de Radio Pleine Lune, qui a toujours été un engagement militant avec un enthousiasme de base à toute épreuve. Et à un certain moment, pour moi, ça s'est estompé et j'ai pensé à l'époque, je pensais qu'il fallait pas totalement se professionnaliser, mais il fallait qu'on trouve de l'argent pour avoir une infrastructure de base et un minimum d'indemnisation des personnes qui font des émissions à Radio Pleine Lune. J'étais convaincue que le bénévolat et le simple militantisme, c'était faux. C'était pour classe, donc c'était au milieu des années 80. Et je suis aussi, petit à petit, j'ai arrêté aussi de faire des émissions à Radio Pleine Lune. Et j'étais convaincue de ça. Et maintenant, avec le temps et en regardant en arrière, je suis plus si convaincue que ça. Je pense pas que c'était une question de rémunération, de bénévolat ou pas bénévolat. C'est une question d'énergie, de force qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas lié à ça.
Voilà. Je sais pas moi, Annette ou Rina, vous avez toutes d'une façon ou d'une autre, ou Martine, vécu ça aussi, puisque chaque fois il y a eu ce problème partout où vous avez travaillé, que ce soit à l'Inédite, que ce soit à Femmes Suisses ou Femmes en Suisse, que ce soit dans les lieux de santé des femmes, il y a toujours eu ce problème aussi, éternellement. Oui. Martine.
Vas-y Martine. Je voudrais juste dire une petite chose, c'est que moi mon sentiment c'est que le militantisme n'a pas baissé. Je crois que la génération que nous représentons ici est une génération fondamentalement militante qui continue de faire des choses sur le plan militant. Ce qui change dans cette institutionnalisation du féminisme dont parlait Viviane tout à l'heure, c'est que je crois que les générations plus jeunes voient plus les choses comme nous, et que nous, on est obligés de composer avec ça d'une certaine façon. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que beaucoup d'entre nous ont réussi un projet qu'elles avaient au départ, qui était d'essayer d'arriver en partie à gagner leur vie dans le domaine qui les intéressait, c'est-à-dire l'amélioration de la situation des femmes. Donc il y a quand même une certaine logique. Mais la militance est à la base, c'est parce qu'on a milité qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir en tirer un profit financier.
Alors effectivement, Annette, à la librairie L'Inédite, le problème se pose encore aujourd'hui de est-ce que c'est un travail qui peut être vraiment rémunéré avec un salaire identique aux autres travailleurs et travailleuses dans le domaine du livre, ou est-ce qu'il y a la nécessité encore de pouvoir compter sur effectivement des femmes qui militent, qui s'intéressent à la librairie, mais n'ont pas besoin d'un salaire pour vivre, ou n'ont pas besoin d'être... Leur reconnaissance se passe à d'autres niveaux. Et effectivement, il y a quand même une différence avec le début qui était à cette époque-là, il y a 20 ans exactement. Il y a 20 ans que l'Inédite est sur le marché du livre à Genève. Et effectivement, au début, il ne s'agissait que de femmes bénévoles qui se lançaient dans l'aventure de vendre et de faire de la publicité pour un certain genre de littérature, pour aussi permettre à des femmes pas connues d'être lues et la possibilité de les trouver à Genève directement sur des rayons de librairie. Aujourd'hui, eh bien, nous avons agrandi. Nous vendons beaucoup plus qu'il y a quelques années, et il y a la possibilité effectivement de faire une sorte de mélange, c'est-à-dire qu'il y a un réseau fondamental de militants, et là je rejoins Martine, je crois que si on n'a pas l'énergie, la conviction que représente le militantisme, on n'a plus le ressort suffisant pour faire vivre une librairie comme la nôtre, mais effectivement, on essaye de professionnaliser, on achète des ordinateurs, on se met au goût du jour, et grâce à cela, on a la possibilité d'avoir un chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui nous permet de rémunérer partiellement on les appelle conseillères plutôt que vendeuses, parce que quand on travaille à l'Inédite, on n'est pas seulement une vendeuse, mais on est la libraire qui connaît les livres, qui les conseille et qui essaye de les présenter le mieux possible.
Rina, parle-nous de l'expérience des femmes en santé, parce qu'il y a aussi, comme disait Martine, le désir de vivre de ce travail-là. Il y a eu les centres de santé des femmes, où il y avait parfois des difficultés financières importantes. Il y a eu, par exemple, tu as écrit des livres, je suppose que tu souhaitais bien qu'ils se vendent et que tu puisses en vivre. Ce n'était pas que des actes militants. Comment tu as vécu ça, par exemple ?
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a la question du salaire, bien sûr, qui est très importante, mais aussi d'où vient le salaire. C'est-à-dire que si le salaire vient réellement de la vente des livres, par exemple, c'est une chose, mais si le salaire vient d'une subvention, par exemple, là, c'est beaucoup plus délicat. Et on a vu l'exemple avec Filigrane, dont les salaires étaient subventionnés dans la phase où Filigrane était lié au bureau de l'égalité. Et quand les subventions ont disparu, eh ben, le groupe s'est écroulé parce qu'elles n'avaient pas ce passé de groupe militant qui était capable d'assumer ce coup dur et d'essayer de trouver une manière de continuer. Hein. Donc je crois que là, c'est une... Bon, après coup, formation a sauvé la mise, mais je crois que c'est une faiblesse énorme, finalement, de ne pas être, de ne pas avoir ce degré d'indépendance qui permet, en cas de coup dur, de maintenir quand même une forme de continuité.
Alda ?
Mais je veux juste rajouter, mais je pense, à vous entendre, j'en conclurai qu'il faut quand même une base... salarié, c'est peut-être pas le mot, mais disons une base rémunérée pour tenir sur la durée. Et effectivement, cette force militante aussi pour donner le contenu, pour donner que ça soit le moteur. Parce que sinon, on voit ce qui n'est que salarié, c'est souvent des services, c'est souvent une routine qui s'installe.
Ça devient des prestations.
Ça devient des prestations, ça devient quelque chose d'utile et intéressant, mais ce n'est plus l'innovation, ce n'est plus le moteur. Ça n'invente, ça ne crée pas du sens, du contenu, je sais pas, c'est une hypothèse.
Pour la petite anecdote, j'entendais Claude Frey, conseiller national radical ce matin, dire « Ruth Dreyfus, elle est restée trop militante.
È difficile incontrarla, ma non perdi di vista mai gli occhi nudi sul volto, dai silenzi vicine, voci umbratili. Sono scritte sui muri dei cortili nelle notti coloniali. E mia nonna è una quercia e va, si erge nella tempesta. Nei momenti di guerra stira, senza lacrime oscure, sopra i campi di grano, le sottane in su. Fanno odore di mare, nelle navi degli inverni da passare. Donne in amore, donne in amore. Si ferma in fotografia, ha una spilla nel cuore d'Emi, ti cancella lo sguardo e sì, se decide così, non ci sono carezze, non perdonerà. Viaggerà su quel camion, sola, 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 sola. Immaginare donne in amore, donne in amore.
Diana Nannini dans Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Ce soir réunis La Pleine Lune et Remue Ménage pour une dernière émission avant que d'autres voix reprennent la relève. Nous vous rappelons que si vous avez envie d'intervenir dans cette ultime émission, vous pouvez toujours le faire en nous appelant en direct au 450 40 51 41 059 si vous appelez depuis Genève voisine. Viviane, toi, tu avais l'habitude de raconter des histoires parfois sur dans la pleine lune.
Et oui, parce que quand on a commencé la radio il y a 20 ans, on avait des petits enfants. Et des enfants qui, chaque fois qu'on partait pour la radio, pleuraient parce qu'ils n'aimaient pas du tout que leur maman s'en aille. Alors on leur disait, pour les faire rester calmes, eh ben tu allumes la radio et puis tu verras, dans quelques instants, on te racontera une histoire à la radio. Et comme ça, les enfants nous laissaient partir. Alors cette histoire, je la dédie à une enfant qui n'est plus si petite, une histoire pour Léa. C'est l'histoire qui se passe un 31 décembre. On pourrait dire, par exemple, qu'elle se passe le 31 décembre de l'an 2000. Cette nuit-là, se rencontrèrent sur la place devant la cathédrale à Genève, se rencontrèrent la mort, le mal de tête et le mal de ventre. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus et ils étaient contents de se retrouver. Et ils s'embrassèrent et ils se tapèrent sur le dos. Ah, vraiment, quelle bonne retrouvaille. La mort avait une mine absolument splendide. Il faut dire que depuis quelque temps, elle mangeait vraiment beaucoup. Pour célébrer l'événement, la mort, le mal de tête et le mal de ventre décidèrent de faire une fête et d'aller tuer un mouton pour faire un méchoui. Le mal de tête dit « Bon, ben, je vais aller chercher un mouton ». Et il commença à marcher dans la ville, il traversa une première place, une deuxième place, une troisième place. Finalement, il arrive dans un champ où il y a un berger avec des moutons. Et le mal de tête lui demande « Eh berger, donne-moi un mouton ». Le berger dit « Mais pourquoi est-ce que je te donnerai un mouton ? Si tu veux un mouton, tu n'as qu'à l'acheter ». ».« Comment l'acheter ? Mais tu ne sais pas qui je suis ». Je suis le mal de tête, tu sais, cette douleur terrible. Donne-moi un mouton. Non, non, dit le berger. Si tu veux un mouton, tu le payes. Le mal de tête furieux se précipita dans la tête du berger qui se mit à hurler, une douleur terrible qui lui vrillait les tempes. Il n'arrivait plus à voir, il avait les yeux troublés, il tâtonnait, il titubait. Il ne savait plus que faire. Finalement, il se traîna jusqu'à la rivière, trempa la tête dans l'eau glacée. Ah, ça faisait du bien. Mais le mal de tête, lui, n'était pas du tout à l'aise. Il crevait de froid, là, dans cette rivière. Et à un certain moment, il ne put plus supporter et il sortit de la tête du berger et retourna tout penaud devant la cathédrale. La mort le prit dans ses bras et le réchauffa. C'est à mon tour d'y aller, dit le mal de ventre. À moi, il ne refusera pas. Et il se mit en marche, il traversa une première place, une deuxième place, une troisième place, et il arriva dans le champ où le berger était toujours là avec ses moutons. Donne-moi un mouton, dit le mal de ventre. Non, non, dit le berger, t'as qu'à payer. Quoi ? Me faire payer, à moi, le mal de ventre ? Mais tu as déjà eu mal au ventre, tu sais ce que je fais. Tu veux un mouton ? Tu payes. Le mal de ventre furieux se précipita entre les deux côtes du berger qui se plia en deux en criant « Aïe, ça fait mal !» Il n'arrivait plus à respirer, il haletait, c'était terrible cette douleur qui le rongeait. Il n'arrivait plus à rien faire finalement en se traînant par terre. Il arriva un petit peu à ramasser quelques brins de bois, alluma un feu. « Ah, ça faisait du bien cette chaleur, la douleur s'estompait. » Oui, mais dans le ventre, le mal de ventre, lui, oulala, il avait chaud. Et puis ça brûlait. Eh, mais ça devient insupportable. Et le mal de ventre se coula entre les deux côtes et partit tout penaud rejoindre ses amis devant la cathédrale. La mort prit le mal de ventre dans ses bras et le refroidit. Je crois que c'est à mon tour d'y aller, dit la mort, et elle se mit en chemin. Tout le monde la reconnaissait, tout le monde se taisait en la voyant, tout le monde se tournait, ils avaient peur. Elle traversa une place, deux places, trois places, arriva dans le champ. Et quand elle arriva dans le champ, le berger lui aussi la reconnut tout de suite. Et il comprit que cette fois-ci, il n'avait plus rien à faire. Il prit un mouton et le donna à la mort. Qui s'en repartait quand le berger l'arrêta en disant « Mais quand même, je t'ai donné un mouton, d'accord, tu ne m'as pas payé, mais tu pourrais au moins me donner quelque chose. » La mort dit « Oui, d'accord. » Je vais te raconter une histoire. Tu sais, là-haut, dans la montagne, dans le Mont Blanc, il y a une grotte. Et dans cette grotte, il y a des milliers de chandelles. Il y en a qui sont très grandes, il y en a qui sont toutes petites. La flamme est presque sur le point d'arrêter. Ces chandelles représentent chacun la vie d'un homme ou d'une femme sur Terre. Ceux qui ont une flamme toute vacillante vont bientôt partir. Ceux qui, au contraire, brûlent d'une belle flamme ont une longue vie devant eux. Bien sûr, le berger mourait de curiosité de poser une question. Et il la posa. Et la mort lui répondit que sa flamme était toute petite. Alors le berger se gratta la tête et dit « Au fond, après tout, rends-moi mon mouton. Et s'il n'est pas mort, c'est qu'il est toujours vivant. »
Je me souviens du cri de la première fois. Je montais à Paris afin de tirer les rois. Papa gardait la terre, maman était en haut, grignotée par les vers et par les escargots. Je vidais mon trop-plein courant dans la cité. Mon phare était éteint où j'ai pu le fourrer. J'avais une envie de me broyer dans le noir, détresse dans les cheveux. J'attendais le hasard. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. J'ai crié, j'ai rien fait avant d'être assommée. Je me suis réveillée debout et enchaînée. Je ne pouvais bouger et les trois hommes riaient sur leur visage grêlé. Beaucoup de nuages de lait, ils ont déchiqueté mon pullot vert orange. Nous les hindous on est, toi tu seras le Gange. Ils m'ont dit que les canards c'était des signes d'étain. Ils voulaient que je me marre, mais c'était pas marrant. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Ils m'ont déshabillé, j'étais comme un enfant, nu comme dans l'été, quand je nage dans l'étang. Et ils m'ont caressé tout mon corps en bavant, comme quand papa changeait mes couches étant d'enfant. Et ils m'ont demandé si ça ne me gênait pas. De plaisir je n'avais, mais ça ne me gênait pas. Je n'ai pas osé leur dire, ils se seraient moqués de moi. Voulaient me faire plaisir, mais n'y arrivaient pas. Je leur ai juste dit tout bas, ils se sont mis tout nus. Ça ne m'impressionnait pas, j'en avais déjà vu. Épiphanie, ça se fait une fois par an. Épiphanie, ça fait plaisir aux enfants. Y en avait un qui était tout chauve et maigrelet. J'ai pleuré car c'était comme un mort qui mourait. On lui avait ôté ses organes génitaux. Moi je les conservais dans de jolis bocaux. Le soir quand je m'endormais, seul je les regardais. Ma maman éléguait, voilà ce qu'en restait. Alors moi je pleurais et mon pouce je têtais. Ainsi ce maigre et laid
Les Épinoirs dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Les Épinoirs, c'est Manu Anderson que vous venez d'entendre dans Épiphanie, mais c'est aussi Pierre Leric et Alexandre Bordier. Ils sont tous les soirs sous chapiteau dans le parc des Cropettes. C'est une très belle aventure à Hautroy et parfois une très, très belle, des très belles chansons, entre autres comme celle que Manu Anderson nous a proposée là tout de suite. Rina Nussim, que nous avons eu très souvent à notre micro dans Ondes Femmes, que ce soit à Remue Ménage, que ce soit dans Radio Pleine, que ce soit dans les informels. Très souvent, elle avait plein de choses à venir nous dire, nous raconter, nous expliquer. Rina, comment tu ferais un petit survol sur tes nombreuses contributions à Ondes Femmes?
Moi, je suis pleine de souvenirs, bien sûr. Je me rappelle d'avoir présenté mes livres. Vous n'avez pas pu y échapper. Maman Mélisse et la ménopause, bien sûr. Mais j'ai aussi plein d'autres souvenirs. Je me souviens entre autres des émissions de Canicule. Vous vous souvenez de Radio Canicule?
Bien sûr, nous y penserons tout à l'heure.
C'était l'émission des lesbiennes et on a eu des émissions fantastiques, entre autres émissions de musique de lesbiennes. On avait fait vraiment plusieurs heures fascinantes de musique. On avait girouettes et pirouettes. C'est des souvenirs absolument inoubliables.
Mais encore. C'est un peu court pour les nombreuses participations, Rina. On reste toute la suspendue en attendant la suite.
Les événements politiques de la scène des femmes à Genève, bien entendu. Alors, à chaque occasion, c'était l'occasion de venir un petit peu raconter les choses qui s'étaient en train de se passer. Moi, j'aimerais bien parler déjà du futur, parce que je suis sûre qu'il y aura des émissions occasionnelles. Il y aura certainement pour le 8 mars des femmes, n'est-ce pas? Puisque ce sera la marche des femmes, on aura certainement l'occasion de faire une spéciale ici à Radio Zone.
On verra.
Ça dépend du moins, des voix qui vont nous succéder, ouais.
Moi, il y a une chose que j'aimerais dire, Rina, c'est qu'en tout cas, tu représentais pour moi, en tout cas dans Remue Ménage, ce que toujours on a souhaité créer avec les femmes. C'est-à-dire qu'elles aient le réflexe à un moment donné de nous appeler chaque fois qu'elles avaient envie de parler de quelque chose. Parce que, bien sûr, nous, on allait à la rencontre de femmes, essayer de les faire parler de leurs projets, de leurs créations, etc. Mais on attendait aussi que les femmes fassent appel à nous. Parce qu'on disait, cet espace radiophonique, il est aussi l'espace des femmes et il s'agit qu'elles l'utilisent, elles. Et tu as été parmi celles qui ont vraiment systématiquement fait appel à cet espace radiophonique, systématiquement nous téléphonent en disant « Ah, il y a tel truc, j'aimerais bien pouvoir en parler. » Et ça, je pense que c'était pour nous vraiment un signe que la radio fonctionnait quand ça marchait comme ça.
Tout à fait. Je me rappelle d'avoir amené, par exemple, les plaignantes du docteur Skouvaklis, celles qui ont réussi à l'envoyer en prison, vous vous souvenez? Deux dames espagnoles qui avaient subi des opérations et des traitements absolument inacceptables et qui ont réussi à traîner ce médecin pourtant fort bien soutenu en justice et où il a fini par prendre 4 ans ferme et bien sûr la perte de sa pratique. C'était pas une histoire facile ça. Hein. Et l'une d'entre elles est d'ailleurs devenue députée au municipal aujourd'hui, donc ça lui a vraiment donné des ailes cette aventure.
Alors, effectivement, parlons du futur quand même, Rina, puisque on a dit que chacune, on n'avait pas envie de faire que dans la nostalgie, mais aussi dans l'avenir. Toi, tu as envie de nous parler de la marche des femmes.
Ah oui, quand même, parce que ça va être un grand événement, cette histoire. C'était une initiative qui est partie des Québécoises, et puis maintenant, ça concerne quand même 134 pays, donc c'est presque mieux que l'ONU, parce que ça va encore mieux fonctionner, ça c'est certain. Donc, il s'agit en fait, à l'occasion du 8 mars, qui va commencer à Genève, d'organiser des marches et d'autres événements de protestation concernant la pauvreté et les violences faites aux femmes. Ces deux thèmes qui touchent les femmes dans tous les pays du monde et qui donnent à l'occasion à chacune de se sentir concernée et d'y participer. Et pour l'Europe, la manifestation commencera le 8 mars à Genève et terminera le 17 octobre à Bruxelles. Donc ça va être un très grand événement. Et puisqu'à Seattle, on s'est bien amusé, eh bien on a l'intention de continuer. Alors évidemment, on ne va pas manquer l'OMC, vous comprenez bien.
Mais il y a déjà des réunions préparatoires, non?
Alors il y a un comité qui s'est créé à Genève, Marche des femmes 2000 Genève Marche. Il y a un comité qui s'est créé au niveau national, bien sûr, pour que les autres femmes, les autres villes puissent nous rejoindre. Par exemple, les Valaisannes organisent une marche pour aller du Valais du Nord vers le Valais du Sud et se retrouver exactement à la barrière de Rejti ensemble. Il y a toutes sortes d'initiatives qui sont prises dans différents coins de Suisse pour se joindre à cet événement de protestation.
Donc en tout cas, il faut écrire dans son agenda le 8 mars, en grand, l'agenda 2000, réserver cette journée pour... donc le premier rendez-vous, c'est à Genève, devant les locaux de l'Organisation mondiale du commerce.
Non, en fait, le 8 mars, ce sera plutôt la partie lancement, conférence de presse, mais la manifestation elle-même aura lieu le 11 mars, parce que c'est un samedi et que c'est donc plus facile pour la plupart des femmes de prendre un train, un bus et de nous joindre. Donc en fait, il faut retenir, si vous voulez bien, du 8 mars au 11 mars, et tous les soirs, il y aura des films, bien sûr, puisqu'il y a le Festival de cinéma de femmes de Suisse qui sera à Genève du 8 au 11 mars. Donc ce sera une semaine formidable.
Alors restez très vigilants et vigilantes, regardez bien vos journaux, écoutez les radios aussi, éventuellement on fera peut-être un comeback pour fêter cet événement, et puis aussi dans Femmes en Suisse, il y aura sûrement un dossier sur cet événement. Pour l'illustrer musicalement, nous avons choisi Celia Cruz. Celia Cruz, c'est la grande dame de la salsa, et là, sur un rythme endiablé, elle nous dit à la...